Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous dis, craignez celui-là. Donc vous voyez, le Seigneur Jésus met en garde, prépare ses disciples à être visiblement persécutés, qu'éventuellement des gens vont les menacer de mort. Il leur dit, n'ayez pas peur d'eux, vous êtes mes amis, eh bien vous êtes assurés de ma protection. C'est ça qu'il leur dit ici. Mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer le corps et aussi de jeter dans la géhenne. Ça veut dire, tout simplement, ça veut dire Dieu. Dieu a le pouvoir non seulement de nous faire mourir, mais il a le pouvoir en plus de nous condamner si nous n'avons pas cru au Seigneur Jésus. Donc c'est lui qu'il faut craindre. Donc voyez comment le fait que nous soyons les amis du Seigneur Jésus nous assure une certaine protection particulière. Voilà, je le dis à vous qui êtes mes amis. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qu'on peut vous faire si vous m'êtes fidèle. Et là, vous souffrez selon la justice, comme dit l'épître de Pierre. Alors que ceux qui souffrent selon la justice, ajoute Pierre, remettent leurs âmes en faisant le bien à un fidèle créateur. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous dis, vous souffrez selon la justice, alors moi je m'occupe de votre protection. C'est une assurance que nous pouvons avoir. Mais je veux souligner que, en même temps que le Seigneur parle de la sécurité qu'il donne, il parle de la crainte qu'il faut avoir pour Dieu. Comme quoi, vous voyez, cette amitié, elle est quand même particulière. Ce n'est pas une amitié avec un pote, on pourrait dire. Le Seigneur n'est pas notre pote, n'est pas un copain, on va dire. C'est quand même une amitié où il y a un sentiment de crainte, de respect, parce que ce n'est pas un ami ordinaire. Et on retrouve, il me semble, cette nuance chez l'apôtre Jean. Vous savez, l'apôtre Jean, c'est celui dont il est dit que c'était le disciple que Jésus aimait. Donc une grande intimité avec le Seigneur. Quand au moment de la scène, il est à côté de lui, bon, donc on peut dire vraiment l'ami hein, du Seigneur Jésus. Un ami privilégié du Seigneur Jésus. Et en même temps, dans l'Apocalypse, quand Jean a la vision du Seigneur glorifié, eh bien il tombe par terre comme mort. Quand il le voit, après son élévation dans le ciel, il est terrorisé, on peut dire. Et le Seigneur doit lui dire, ne crains pas, je suis vivant, j'ai été mort. Donc comme quoi, vous voyez, cette amitié est quand même un peu mêlée de crainte. Il y a en même temps une intimité, une liberté, mais sans perdre pour autant le sentiment que le Seigneur est largement plus grand que nous. Il est dans une autre dimension, on peut dire, et que donc nous devons lui conserver un respect. Ce n'est pas une liberté triviale, je dirais, qu'on peut avoir avec le Seigneur Jésus. C'est une liberté mêlée de crainte. Ensuite, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, alors on dit que le Seigneur Jésus est ami aussi de certaines personnes. Matthieu 11, verset 19. Alors les gens disent ceci, « Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, « Voici un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. » Voilà. On accuse un peu le Seigneur Jésus d'être un ami des publicains et des pécheurs. Donc, ça veut dire des gens pas très recommandables. Alors, il me semble que ça souligne ici un aspect de l'amitié du Seigneur Jésus. C'est dans la bouche des gens qui commentent là. C'est pas le Seigneur qui dit « je suis un ami des publicains et des pécheurs ». Mais on le comprend à la lumière d'un autre passage que je crois avoir noté. C'est Matthieu 9, verset 12, où le Seigneur dit « ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'être soignés ». Mais ceux qui sont malades, qui ont besoin de médecins. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus va vers les publicains et les pécheurs, parce qu'ils ont besoin de lui. Donc il donne son amitié à des personnes qui ont besoin de lui. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que si on compare avec l'amitié qui existe autour de nous, bien souvent, réfléchissez bien, les gens, quel genre d'amitié est-ce qu'ils recherchent? Quel genre de fréquentation ils cherchent à avoir? Plutôt des gens qui vont leur apporter quelque chose, ou dont la compagnie va les valoriser? Souvent, on cherche des amis avec qui ça fait bien d'être ami, quoi, finalement. Ou alors, est-ce que on va, au contraire, donner volontiers notre amitié à des personnes que ça va un peu revaloriser ou qui ont besoin de nous, voyez ? Alors, le Seigneur, il était dans cet état d'esprit. Il voyait des malades, il voulait être leur médecin. Il savait donner son intérêt, donner son amitié à ceux qui avaient besoin de lui et non pas à ceux qui auraient pu lui apporter quelque chose. Donc, je crois que c'est une belle leçon d'amitié que le Seigneur Jésus nous donne ici. Il s'intéresse à ceux qui ont besoin de lui. Voilà, une amitié généreuse, une amitié qui donne. Et puis, encore plus frappant, Matthieu 26. Alors là, c'est totalement inattendu. Au verset 50, vous allez voir qui le Seigneur Jésus va appeler ami. Donc nous sommes dans le jardin de Gethsémané. On peut lire à partir du verset 47. Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, vint. Et avec lui une grande foule avec des épées et des bâtons de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Et celui qui le livrait leur donna un signe, disant, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Je te salue, Rabbi. » Et il le baisa avec empressement. Et Jésus lui dit, « Ami, pourquoi es-tu venu ?» Alors s'étant approché, ils mirent les mains sur Jésus et se saisirent de lui. Vous voyez, qui est-ce que le Seigneur Jésus appelle ami ici? Eh bien, c'est Judas. le traître, celui qui est en train de le livrer. Et ça aussi, je pense que c'est une belle leçon d'amitié. Jusqu'au dernier moment, on peut dire, le Seigneur Jésus va considérer Judas comme son ami. Bien sûr, il y a une prophétie dans les psaumes qui dit « Mon intime ami a levé le talon contre moi ». Alors c'est certainement une réalisation de cette prophétie qui s'accomplit ici. Mais en même temps, le fait que jusqu'au bout, le Seigneur accorde le titre d'ami à Judas montre qu'il ne juge pas jusqu'à la dernière extrémité. Pourtant, on sait que Satan était entré dans Judas, il avait déjà comploté contre le Seigneur Jésus, mais tant que la chose n'est pas totalement accomplie, le Seigneur ne le juge pas. Et je crois que c'est un exemple pour nous aussi. Ne pas juger sur des intentions, sur des projets, sur des soupçons, mais juger uniquement sur des faits. Sur des, on dit d'une manière un peu doctrinaire, lorsque le mal est manifesté. Voilà. Pas le mal soupçonné, imaginé, le mal manifesté. Tant que le mal n'est pas manifesté, tant que le Seigneur n'est pas prisonnier de ceux qui vont l'arrêter, eh bien, il appelle encore Judas son ami. Et jusqu'au bout, jusqu'à la dernière extrémité, tant que la chose n'est pas totalement établie, le Seigneur ne le juge pas et il lui donne son amitié. Alors sachons nous aussi, jusqu'au bout, ne pas imputer le mal. Voilà, jusqu'à la dernière extrémité, mais alors quand le mal est là, ensuite évidemment, les relations peuvent être interrompues. Alors, donc, tous ces versets dans les évangiles nous montrent à quel point le Seigneur Jésus est notre ami. Et on peut aussi rechercher, j'ai recherché aussi des passages qui nous parlent de l'amitié. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Et on va voir à quel point le Seigneur Jésus est un ami, alors on pourrait dire un bon ami, comme il est le bon berger, hein, le berger véritable, mais je préfère l'expression l'ami véritable. On va lire quelques versets qui décrivent l'attitude de l'ami. Luc 11, verset 5. Alors, c'est une parabole que le Seigneur Jésus nous donne sur la prière. Alors, Luc 11, il leur dit cette parabole pour leur dire qu'il faut toujours prier. Hein. On peut lire, donc oui, verset 5. Il leur dit, « Qui sera celui d'entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit et lui dise, « Ami, prête-moi 3 pains, car mon ami est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui présenter. » Et celui qui est dedans répondant dira, « Ne m'importune pas. » Car la porte est déjà fermée et mes enfants sont au lit avec moi, je ne puis me lever étant donné. Je vous dis que bien qu'il ne se lève pas et ne lui en donne pas parce qu'il est son ami, pourtant à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en a besoin. Et moi je vous dis, demandez et il vous sera donné, cherchez, vous trouverez, heurtez et il vous sera ouvert. Donc voyez dans cette parabole, donc le but est de bien faire comprendre qu'il ne faut pas craindre d'importuner Dieu dans nos prières. Il y en a 3 en fait. Il y a celui qui est en voyage, qui arrive. Il y a l'ami de celui-là qui est... Il y a celui qui est arrivé de voyage. Il y a celui qui l'accueille et qui se trouve un peu à dépourvu parce qu'il n'a pas de pain. Et lui, il a encore un troisième ami. Lui, il est au lit, avec ses enfants sont couchés, tout le monde dort. Et, mais lui, il a du pain. Vous voyez, c'est un réseau de 3 amis en fait. Alors, on voit ici ce qu'est l'amitié chez les 2 amis qui sont en bout de chaîne, si vous voulez. Celui du milieu, celui de la fin. Parce que celui qui a une visite impromptue là, eh bien, il accueille les amis de passage, il se préoccupe de leur faire à manger. Il n'a pas à manger. Donc voilà quelqu'un qui est disponible à une heure un peu imprévue pour faire à manger à des visiteurs, inattendus. Et puis le troisième, il est au lit et lui, on lui demande du pain. Alors le Seigneur dit, bon, il ne va pas le faire, mais enfin, il va le faire quand même parce que c'est son ami. Il va quand même se dévouer et donc il va aller se lever et lui donner du pain. Donc ça montre, autant le dernier que le deuxième, tous les 2 nous donnent un bel exemple de disponibilité. Voilà, ils sont disponibles. L'un est dérangé par une visite imprévue. Le deuxième est dérangé par une demande embêtante. Et tous les 2 vont faire l'effort pour satisfaire les 2 premiers. Donc ça nous montre la disponibilité de l'ami. Et donc on va prendre simplement la parabole dans son sens premier, dans le but que le Seigneur Jésus lui a donné. Eh bien c'est que nous pouvons déranger le Seigneur Jésus. Il est notre ami, et nous pouvons le déranger par nos prières. À toute heure, du jour et de la nuit, eh bien on peut s'adresser à lui pour lui demander quelque chose. Et il faut le faire. Il nous dit, demandez, il vous sera donné. C'est pas « ne m'embêtez pas avec vos prières », non, on peut lui demander. Deuxième chose, alors là on va lire plusieurs passages dans le livre des Proverbes, plusieurs fois question de l'amitié dans le livre des Proverbes, et j'ai trouvé que chacune des situations s'appliquait bien au Seigneur Jésus. On pourra aussi en retirer un enseignement pour notre façon de vivre l'amitié aussi. Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps, et un frère est né pour la détresse. » Voilà. Là, c'est une deuxième qualité de l'ami, on peut dire. C'est sa constance, la constance de l'ami. L'ami, il est ami pour toujours. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes entre la personne, pas parce qu'il y a un conflit qui apparaît avec l'ami, qu'il devient ennemi. Non, il est toujours ami. Il va supporter un certain nombre de choses. On va essayer de trouver des solutions. Mais l'ami, il est fidèle en amitié.